Aujourd'hui, on débrief le Taipei Open, dernier tournoi de cette grosse tournée d'Asie qui est passée par l'Indonésie, par la Malaisie et maintenant par Taipei. Les locaux ont brillé, certains ont un peu déçu. On en parle tout de suite dans ce nouvel épisode de
21 Shuttle. Badminton at its very, very best. My goodness me. What a rally. Oh, sensational.
I'm the bad guy.
Take that!
Salut Benoît, comment ça va?
Salut Ewan, bonjour à tous. Bah écoute, très très bien, et toi?
Eh bien ça va bien, j'ai l'impression Benoît qu'avec cette tournée, on a un peu voyagé, voilà, beaucoup dans l'Asie du Sud. On est passé par Singapour, l'Indonésie et la Malaisie, et là ça se termine enfin. Et j'ai envie de dire, ça se termine... Il fallait que ça se termine pour certains joueurs. On sent que les organismes sont un peu fatigués. Et là, dans ce Super 300, beaucoup ont fait l'impasse.
Ouais, et ceux qui l'ont pas fait, même ceux qui sont allés au bout, certains, on a bien vu quand même que le rythme était plus au décrassage qu'à la perf de pointe.
Voilà, donc là, pas mal de grands joueurs ne sont pas venus. On va dire les favoris sur le papier, c'était les joueurs de Taïwan qui étaient à domicile et donc sont venus, Xu Jianshui, Tai Tsuying, Li Wang et autres paires de doubles. Mais voilà, on voulait parler de ce tournoi quand même, puisqu'il y a eu quelques joueurs et quelques matchs dont on voulait parler. Benoît, par quoi tu veux commencer comme tableau, dis-moi.
Le double mixte, il n'y a pas de joueur de Taipei, mais ça me dit bien.
Voilà, finale très expéditive, hein. Victoire 21-8, 21-9 des Hongkongais Li Enge contre les Thaïlandais Uptong Korepap. Alors on va passer vite sur cette finale, Benoît. Il y avait une grosse, grosse, grosse classe d'écart entre les deux paires et ça s'est vu dans les deux sets. Les Thaïlandais ont été vraiment sans solution.
Ouais, clairement, ça allait trop, trop vite. On peut supposer qu'ils sont arrivés quand même en finale parce que tableau favorable, mais dans l'autre partie, jamais ils seraient arrivés jusque-là. Et pour l'anecdote, Uptong, il avait perdu au premier tour des championnats du monde junior contre Christo il y a 4 ans, donc pas du tout un joueur de double à l'origine.
Ah ouais, je savais pas, mais pour le coup, c'est vrai que la paire de Hong Kong, ils n'étaient pas tête de série. Mais Benoît, on a déjà parlé d'eux, puisque Li, l'homme de cette paire de mixte, on le connaît bien, puisqu'il jouait avec Shaw avant, il a été top 10 pendant longtemps. Donc son ancienne partenaire ne joue plus et il y a eu un moment où on le voyait plus et pourtant on a eu la surprise de voir qu'il avait que 28 ans et quand tu le vois jouer, c'est un joueur très puissant qui est assez impressionnant et tu te dis que il a encore des choses à donner quand même.
Ouais, c'est clair, on avait commencé à le voir cette année un peu sur le circuit européen, parfois dans des sombres tournois, mais clairement, ouais, quand tu vois ça, ok, c'est un Super 300 peut-être un peu au rabais, diront certains, mais il a clairement des années devant lui, et je pense que c'est vraiment une paire qui peut, avec Tang Tse, porter Hong Kong encore pendant quelques années, clairement, ouais.
Voilà, cette année, ils ont gagné le Dutch International et ils ont fait une finale au Danemark Masters. Pour l'instant, c'est vrai que ça a l'air un peu compliqué pour le plus gros tournoi. Par exemple, ils se sont fait corriger au deuxième tour la semaine dernière, à Singapour. Mais sur ce genre de tournoi, c'est vrai que là, ils ont un peu écrasé la concurrence. On parlera de sa partenaire qui a brillé plus tard. Mais voilà, ouais, c'est vrai que j'ai hâte de voir ce que ça peut faire sur des plus gros tournois sur la durée. Il y avait beaucoup de paires de Taïwan et pour le coup Taïwan en mixte, c'est pas incroyable. Donc ce tableau de mixte, il va aller très très vite puisque Benoît, on parlait de Lille, le Hongkongais, il y avait son partenaire de double homme qui était également dans le tableau mais qui a perdu au deuxième tour. Benoît, sur le mixte, il y a d'autres choses dont tu veux parler ?
Oui, je peux dire un petit mot sur la coupe de cheveux absolument scandaleuse de To Heiwei. Je parle d'elle aussi parce que c'est la paire qui a battu Li Hsu, que moi je voyais favorite, en tout cas, et capable d'aller jusqu'au bout. Au-delà de sa coupe de cheveux absolument scandaleuse contre laquelle je pense qu'un bannissement est le minimum, ils ont fait une vraie semaine et ils perdent contre, contre Lee et Enge en demi, mais c'était, je pense que c'était un des meilleurs matchs de la semaine et peut-être la finale avant l'heure.
Bah, tu fais bien d'en parler. Je l'ai pas précisé, mais cet épisode va être sûrement assez court, puisque dans le tableau, il y a pas mal de paires taïwanaises dans tous les tableaux, vu que c'était leur tournoi à domicile, et peu de paires assez connues, donc voilà, on va aller vite. Donc le titre de mixte qui reste à Hong Kong, puisque les tenants du titre en 2019, il n'y a pas eu d'édition en 2020 et 2021, les tenants du titre étaient Tang Tse, et donc voilà, Lee Enge qui remporte le mixte. Benoît, quelque chose à rajouter ou une autre critique capillaire ou on peut changer de tableau?
on peut enchaîner, c'est bon pour les critiques capillaires.
On va tout de suite passer au double dame.
I'm the bad guy.
Take that!
Et on passe au double dame puisque ça permet de faire la transition avec Enge Tseyo qui a gagné en mixte et qui gagne également en double dame avec sa partenaire Tsang Yuyan. Elles ont battu en finale la paire Hirokami Kato, les japonaises, 21-15, 18-21, 21-19. C'est deux paires qui sont au-delà de la centième place mondiale. Mais Benoît, autant en mixte, je faisais avec la paire taïwanaise que tu as dit tout à l'heure, je pense que les Hongkongais faisaient office de favoris. Autant là, je voyais pas en double dame la paire de Hong Kong aller au bout, tant elle me paraissait un peu... un peu jeune et pas forcément prête à gagner des super 300, et finalement elles m'ont montré que j'avais tort, et même face à la paire japonaise en finale où je pensais encore qu'elles allaient perdre, elles ont fait le travail et elles ont gagné au bout du suspense. C'est un match pour le coup qui a été très long, qui a duré une heure.
Ouais, je pensais pas non plus, on se le disait en off, et j'ai vérifié, elles avaient perdu 12 et 13 à Singapour la semaine d'avant contre les mêmes japonaises, donc effectivement, c'était difficile de le voir venir, et en plus de ça, sur le match, perso, je trouve que les japonaises avaient beaucoup plus d'armes pour gagner. J'ai du mal à expliquer en fait comment elles ont pu passer à côté. Elles se sont peut-être parfois laissées endormir un peu par le rythme du match, mais enfin, j'ai encore même après coup du mal à expliquer ce titre des Hongkongaises. N'empêche que Enge, elle va chercher un doublé et ça va quand même l'aider beaucoup dans les points, et je pense qu'on va arrêter de la voir sur le circuit européen l'année prochaine.
Ouais, et sa partenaire est encore plus jeune, sa partenaire a que 20 ans, donc j'ai hâte de voir effectivement ce que ça peut donner, parce que ouais, ça, en tout cas c'est très prometteur. Et après sur le reste du tableau, comme j'ai dit, pas mal de paires taïwanaises. En bas, il y avait aussi une paire indienne, et en haut, il y avait une deuxième paire japonaise. Comme souvent en double dame, les paires japonaises se sont affrontées. L'autre paire, c'était Obara Suzuki, elles étaient tête de série 7, mais elles ont perdu. Voilà, Benoît, le double dame, quelque chose à en dire encore?
Ouais, non, le tableau. On attendait, je pense, toi comme moi, les malaisiennes, là... dont j'ai mangé le nom, qui était pas mal la semaine dernière à Singapour. Elles ont finalement déclaré forfait, elles étaient tête de série 1. Globalement décevant, je pense, ce double dame. Enfin, en termes de niveau, il n'y a pas grand chose à analyser, quoi. Ça me rappelle les tournois en Inde où il n'y avait que des Indiens et 4 joueurs qui étaient un peu au-dessus du lot.
Ouais, je suis assez d'accord. On va passer au dernier tableau de double, le double homme.
Ah.
Aimez-vous le badminton?
Ah non.
Il s'agit là d'un sport qui ne déçoit personne.
Le double homme, Benoît, où ce sont les Malaisiens Man Kai, tête de série 6, qui se sont imposés en finale contre les têtes de série 1, Lee Wang, les champions olympiques. Les Malaisiens 36e mondiaux qui se sont imposés 21-18, 11-21, 21-18. Benoît, je suis très curieux de savoir ce que tu as pensé de cette finale.
Je comprends pas comment Lee Wang ils l'ont pas gagné. Sincèrement, j'ai l'impression, tu vas me dire, à chaud comme ça, j'étais un peu dur quand on en parlait, parce que pour moi c'est un match qu'ils doivent gagner, j'ai pas changé d'avis là-dessus. Mais je trouve qu'ils étaient bien meilleurs en fait. Ils sont pas passés à côté de leur finale, tu vois. Enfin, si, parce qu'ils la gagnent pas, mais dans le jeu, on voyait bien que Lee Wang était bien meilleur quand ils accéléraient, mais c'était. c'était pas assez tranchant sur la durée. En fait, il marquait un point, il s'endormait sur les trois suivants. Je sais pas trop ce que t'en penses, mais c'est vrai que moi j'ai été déçu plus de ça en fait, parce qu'on voyait qu'ils étaient vraiment au-dessus et capables de gagner, et au final tu perds 18 au troisième, alors que clairement ce match, jamais tu dois le perdre.
C'est compliqué, je suis à la fois d'accord et pas d'accord. Je suis d'accord sur le fait que je pense qu'ils devaient le gagner et qu'ils se sont laissés endormir, je suis assez d'accord avec ça, surtout au troisième. Ouais. Je pense qu'ils se sont un peu trop vite dit quand ils étaient devant au troisième, je crois qu'ils menaient 15-12. Je pense que je me suis dit ça et eux aussi se le sont dit, genre bon maintenant c'est bon, ça va dérouler, ils vont garder leurs 3-4 points d'avance jusqu'au bout, tu vois, et c'est bon. Et je pense qu'eux-mêmes se sont fait surprendre, ils se font reprendre à 18-18 et après ils avancent plus. Par contre, je trouve pas qu'ils ont été tellement meilleurs que leurs adversaires sur le match, notamment au filet où je trouve qu'ils se sont fait manger, un peu baladés devant. J'ai trouvé que Li Wang, ils avaient du mal à conclure les échanges où ils menaient, alors que normalement c'est pas une paire qui a trop de mal à faire ça, donc je trouve pas ce résultat si illogique, tu vois.
Ouais, illogique c'était peut-être pas, j'étais peut-être un peu dur dans ce que je disais, mais oui, je comprends totalement ce que tu veux dire, mais c'est juste que quand on connaît un peu Li Wang et qu'on les a vus jouer au niveau auquel on les a vus, c'est dur de les voir là, et on sentait qu'ils avaient vraiment envie de réussir devant leur public, mais je sais pas si tu as senti ça aussi. On a aussi senti que, enfin moi en tout cas je l'ai vu comme ça, qu'ils étaient pas vraiment au top du top de leur bad et de leur forme physique, même s'il y avait cette envie de réussir.
Ah bah de toute façon Li Wang ça reste dans la, parce qu'on est d'accord que s'ils sont à leur niveau aux Jeux Olympiques, et même pas forcément à leur niveau aux Jeux Olympiques, mais un niveau qui approche ça, normalement dans ce tableau ils doivent mettre 2-7 à tout le monde et jamais passer de plus de 40 minutes sur le terrain, tu vois.
Ah bah c'est, il y a zéro débat, oui.
Ce qu'on a vu cette semaine, je trouve que ça reste dans la lignée de ce qu'ils ont fait récemment. Et je ne pense pas que ce soit de la mauvaise volonté, tu vois. Je pense qu'ils ont l'air vraiment peinés de ne pas y arriver. Et je trouve qu'ils essayent, mais que ça ne... Ouais, ça fonctionne pas, en fait. Et ils ont l'air... En fait, ils ont l'air sans solution. C'est ça qui est assez terrible, je trouve.
Ouais, je sais pas si c'est un manque de rythme. J'ai du mal à jauger. J'avais l'impression que ça allait un peu mieux au fil de la semaine. Mais c'est aussi le fait de jouer devant son public, ça leur a peut-être redonné cette énergie. Mais je suis d'accord avec toi, on a l'impression, enfin, sans être méchant dans la comparaison avec les Minions, parfois on a l'impression vraiment que, bah, pas envie d'être là, tu vois. Mais avec Li Wang, j'ai pas cette impression-là. Et ouais, l'impression de pas y arriver et que ça revient pas, ça doit être très très frustrant pour eux aussi.
Parce qu'ils ont galéré cette semaine, hein. Ils gagnent 21-16 au troisième, au premier match. Au deuxième, ils vont aussi au troisième. Après, c'est vrai que t'as raison, on a l'impression que ça allait un peu mieux. Ils gagnent plus facilement leur demi et leur quart. Mais je trouve que les Malaisiens ont bien géré le match aussi en finale. Ils ont bien laissé passer l'orage dans le deuxième et ils ont saisi quasiment les seules chances qu'ils avaient dans le troisième. Peut-être parlons un peu des Malaisiens. Moi, je trouve que sur cette finale, même si tu voyais qu'ils étaient, je pense, intrinsèquement moins forts que leurs adversaires, ils ont su élever leur niveau de top 40 mondiaux. Tu vois, je trouve qu'ils ont été, ils ont été vraiment bons. C'est des beaux joueurs à avoir joué.
Ouais, surtout que t'as raison de le dire, en vrai, ils ont eu une semaine entre guillemets facile, et c'est aussi justement ça qui est difficile, c'est que en finale, tu te retrouves face à la paire championne olympique. Alors oui, qu'il n'y a pas le niveau des jeux, ça, il n'y a pas de débat, mais t'as battu que des paires qui sont hors top 50, voire hors top 100 mondial, t'as joué quasiment personne.
Ils ont joué que des Taïwanais déjà, ils ont joué des locaux toute la semaine, et ils en ont battu 5 paires.
Carrément, donc c'est vrai que c'est... Enfin, t'as raison de le dire, la gestion de leur finale est impressionnante, surtout que c'est pas comme s'ils avaient eu 3 matchs à jouer difficiles dans la semaine, quoi, tu vois, c'est...
Ah ouais, carrément. Dans ce tableau, il y avait quelques paires connues, mais pas mal qui ont déçu, je pense notamment à Aryun Kapila, les têtes de série 5, les Indiens, qui galèrent à gagner un match et qui derrière perdent le deuxième. On a Govisem qui était là, mais pas avec son partenaire habituel. Là, il jouait avec Lim Kimwa. Ils perdent au deuxième tour aussi contre une paire taïwanaise. Enfin voilà, les quelques paires. En fait, Benoît, c'est toujours compliqué parce que dans ce genre de tableau, il y avait Lu Yang aussi, qui est les, pour le coup taïwanais qu'on connaît bien, qui ont perdu au deuxième tour. Il y a pas mal de paires taïwanaises que toi et moi on ne connaissait pas, mais c'est toujours pareil, c'est des paires qui jouent pas sur le circuit mondial et dont le niveau est souvent bien supérieur à leur classement, quoi.
Ouais, clairement, c'est exactement ça, et c'est du coup difficile aussi pour d'analyser en fait ça. C'est que les paires, elles ont pas leur vrai ranking. On les a jamais vraiment vu jouer contre des paires de leur niveau, donc c'est jamais facile à analyser, et même c'est jamais facile à jouer ce genre de tournoi, quoi.
Voilà, il y avait également dans le tableau le vainqueur du mixte, ouais. Lee, qui jouait avec son partenaire habituel, Lo, mais ils ont perdu en quart de finale. Benoît, est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur le tableau de double homme ?
Non, je pense qu'on peut enchaîner.
On va tout de suite passer au simple dame.
Look at this, look at that.
Le simple dame, une taïwanaise un peu connue qui gagne ce tableau, en l'occurrence Tai Tsuying, la tête de série numéro 1 qui a battu en finale la tête de série 7 japonaise, Saena Kawakami, 21-17, 21-16. Benoît, je suis aussi curieux de savoir ce que tu penses de ce match. J'avoue que vers le début, je pensais que ça allait être plus facile pour Tai Tsuying que ce que ça a finalement été. J'ai un peu l'impression que Kawakami, elle, était valeureuse, mais qu'elle était trop limitée face à Tai Tsuying, qui n'a pas forcément eu à forcer son talent pour gagner ce match.
Ouais, je partage totalement. Pour moi, on va en parler après de Shu Tianchen, mais il y aura une vraie comparaison à faire. Tai Tsuying, je l'ai vu jouer cette semaine, elle a oscillé entre 30% et 70% de ses capacités, tu vois. Elle a jamais eu besoin d'aller au-delà, on l'a jamais vu vraiment à fond tenter des trucs de ouf. Et Kawakami, pour moi, c'est pas une joueuse qu'on voit énormément sur les fins de tournoi, sur le circuit international. Mais pour moi, c'est un peu une Okuhara moins, tu vois. C'est des joueuses hyper polyvalentes, mais le problème, c'est que quand t'es polyvalent moins face à Tai Tsuying, t'as pas les armes pour t'en sortir. Et c'est clairement ce que j'ai ressenti sur ce match. Alors oui, il y a 17 et 16, mais j'ai jamais vraiment senti qu'il y avait moyen pour Kawakami, tu vois.
Bah, j'ai l'impression que l'école japonaise en simple dame, c'est un peu ça, hein.
Ouais.
T'essayes de tout remettre, mais ça manque parfois de génie, on va dire.
Mmh. Ouais. Que Okuhara a peut-être un peu, justement. Mais...
Ah oui.
Voilà.
Oui. Kawakami qui avait gagné, ici on s'est fait la réflexion tout à l'heure, elle avait gagné en 2017, alors que Tai Tsuying avait gagné en 2012, 2016 et 2018, et donc maintenant 2022. Ouais, effectivement, Tai Tsuying, quand tu vois la semaine qu'elle a passée, elle s'est un peu baladée, et je pense que ça explique aussi, même face à Pai Yupo, sa compatriote, qui est censée quand même être assez forte, elle n'a pas eu de difficultés. Je pense qu'elle s'attendait peut-être à un match plus tranquille en finale. Elle a dû élever un petit peu son niveau.
Mmh.
Mais elle avait encore beaucoup de marge. Et même Benoît, dans son body language, j'avoue que là aussi, il y a une comparaison à faire avec Shu Tianchen, où tu as l'impression que Tai Tsuying, elle vient parce que c'est à la maison et que tu as l'impression qu'on l'a obligée à venir, limite. Tu vois ce que je veux dire ? Même quand elle a gagné, il n'y a pas d'effusion. C'est plus... elle a fait le travail, quoi.
Ouais, après, chez Shu Tianchen, c'est peut-être... il est plus démonstratif, peut-être, que Tai Tsuying, en tout cas, sur cette semaine-là. Mais oui...
Mais j'ai vu Tai Tsuying beaucoup plus démonstratif que ce qu'elle a fait cette semaine, et même en finale.
Bien sûr, il y a de ça. Tai Tsuying, la vérité, il faut le dire, c'est que elle vient, à mon avis, pas pour l'argent. Les points, quand elle gagne un Super 300, elle s'en sert pas, puisque ses points minimum, ça doit être une victoire sur un Super 1000. Donc oui, clairement, elle vient parce que c'est chez elle, ça fait aucun doute, mais elle n'a pas vraiment d'intérêt à venir là, il n'y a pas de joueuses vraiment qui peuvent la challenger. Le seul risque finalement, est-ce que c'est pas de se blesser, tu vois, sur ce genre de tournoi où t'es en fin de tournée asiatique, voilà. Donc je peux aussi comprendre l'attitude de certains.
Oui, je comprends tout à fait, surtout que contrairement à Shu Tianchen, elle a pas galéré pour le gagner ce tournoi, donc ça a, je pense, une influence sur la manière dont tu le célèbres. Il y avait quelques... En fait, c'est... Je dis pas qu'elle aurait pu être challengée, qu'elle aurait pu être battue, mais il y avait quelques joueuses intéressantes dans ce tableau, mais qui ont déçu pour la plupart, hein. Je pense notamment à Zhang Beiwen, qui a perdu au deuxième tour. Alors, elle a pas joué beaucoup de matchs depuis qu'elle est revenue de blessure, donc ça peut s'expliquer, l'américaine. Je pense à Kate Etong, qui a aussi perdu au deuxième tour, Malvika Bansod, qui a perdu au premier tour, Aya Aori, qui a perdu au premier tour. Mine de rien, c'est pas mal de joueuses qui auraient pu profiter de ce tableau assez clairsemé, ne l'ont pas fait, à part Kawakami, évidemment. Go Jinwei, qui a gagné deux matchs faciles et qui a perdu contre Kawakami en quart, c'est peut-être, Benoît, le match de la semaine dans ce tableau. Mais ouais, pas mal d'opportunités qui n'ont pas été prises dans ce tableau de simple dame.
Bah clairement, surtout pour les trois premières que tu as citées, Go Jinwei, je serais un peu moins dur là, elle va quand même rentrer dans le top 50 mondial, voilà, ses galères, on les rappelle pas, mais il y en a eu beaucoup. Son niveau, moi, il m'a rassuré. Par contre, les trois que tu as citées avant, c'est vrai que on pouvait s'attendre à un peu mieux. Et finalement, celle qui s'en est sortie le mieux, moi, de celle que j'attendais, c'est Wen Xiaoshu. C'est vrai que tu as dit qu'elle avait battu Aya Aori au premier tour. Moi, je l'attendais plus qu'à Aori, finalement, parce que elle défonce, et je reste poli, le tournoi européen depuis des mois. Et on l'attendait, on attendait cette petite perf sur un gros tournoi. Elle fait demi sur un Super 300. Bon, elle peut rien faire contre Tight Swing, mais... Finalement, c'est la seule, je trouve, on peut parler de Kawakami, mais je trouve que c'est la seule qui a vraiment assumé, tu vois, ce statut de mini favorite.
Ouais, clairement, ouais, la 42e mondiale, ouais. Elle bat des joueuses avec 20 places d'avance, donc t'as raison, c'est une petite perf. Et pour Go Jinwei, ouais, bon, elle revient pas mal. C'est vrai qu'elle aurait pu peut-être faire encore mieux si elle avait battu Kawakami, et j'aurais bien aimé voir le match en finale, l'éventuel match en finale contre Tai Swing, mais il faudra encore attendre. Donc voilà, quatrième titre à la maison pour Tai Swing. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur ce tableau ?
Bah non, je pense que tu t'es offert la transition parfaite avec le quatrième titre.
Voilà, le quatrième titre de Shu Tianchen, on en parle tout de suite, c'est le tableau de Simple Homme. Oh my god, it's... Donc voilà, je l'ai dit, Shu Tianchen qui a remporté le tableau à domicile contre Narwaka, 14-21, 21-10, 21-6. Bah Benoît, Narwaka, on commence à en parler pas mal dans ce podcast, puisque pas plus tard que la semaine dernière, il a perdu en finale du Singapore Open contre Ginting. Là, il perd à nouveau en finale, donc bon, on parlera de lui après, mais malgré deux défaites en finale, il est pas mal. Commençons par Shu Tianchen et ce match, globalement, qu'est-ce que t'en as pensé ?
J'en ai pensé que Shu Tianchen, il a tranquillement laissé passer ce premier set, et que derrière, il était beaucoup, beaucoup, beaucoup plus fort face à un mec un peu fatigué, peut-être encore plus fatigué que lui. Parce qu'on va pas se
mentir. Complètement fatigué. Moi, je trouve que ça explique la baisse physique de Narwaka, explique beaucoup de choses. Et la bonne gestion du match de Shu Tianchen aussi.
De ouf. Je voulais pas trop venir sur Narwaka, mais il a un jeu très énergivore. On en reparlera après. Et Shu Tianchen, il faut quand même dire que sur les deux mois de la tournée asiatique, des matchs, il en a pas gagné des masses.
Non, effectivement, ouais. J'ai pas tous ses résultats en tête, mais il a très peu de fois passé l'écart, alors que c'est quand même un mec qui a les capacités de le faire, quoi.
Qui le faisait tout le temps, surtout. Jusque-là, on lui reprochait de pas aller au bout des tournois, mais c'était un mec archi constant.
Ouais, non, je suis totalement d'accord. C'est vrai que la semaine dernière, à Singapour, il perd contre Pranoy au deuxième tour. Il perd en quart contre Nge Kalong au Malaysia Masters. Malaysia Open, il perd encore contre Pranoy au deuxième tour. Indonesia Open, il perd contre Lee Chuk Yu au deuxième tour. Et Indonesia Masters. Bon, là, pour le coup, il a fait finale, mais il se prend une tôle contre Axelsen. Donc, ouais, c'est vrai que ça va lui faire du bien. Même si, je sais pas ce que t'en penses, mais ok, il gagne, mais que ce soit sur la finale, ou sur globalement la semaine, je trouve qu'on n'a pas encore vu un très grand Shu Tianchen. Alors, ok, il gagne, mais il n'en sort pas forcément grandi, tu vois ce que je veux dire. Et j'en ferai pas du tout un de mes top 5 favoris aux mondiaux.
Bah écoute, tout pareil. Maintenant, je veux pas non plus le sous-estimer. Je trouvais très bon contre Sung Juven. Pour moi, il s'est vraiment baladé sur ce match-là. Vraiment, j'avais l'impression qu'il distribuait le jeu comme s'il jouait contre un vulgaire gamin de 15 ans, donc c'est vraiment dur pour Sung Juven, mais globalement, je te rejoins. C'est compliqué de dire après un tournoi comme ça que Shu Tianchen va faire médaille aux mondiaux, même que Shu Tianchen va arriver en quart facilement aux mondiaux, tu vois. Je pense qu'on est très très loin de pouvoir tirer ses conclusions.
Ouais, c'est ça, il galère au premier tour contre son compatriote Lu Xia-Heng.
Ouais.
Pareil contre Kieran George au deuxième. Après, effectivement, ça allait mieux un peu comme Li Wang. Après, il a pris en rythme. Et pour revenir à la finale, c'est impressionnant ce qu'il mange contre Narawaka quand même au premier tour. Il perd 21-14 au premier set. Je sais même pas si j'ai dit le score, mais Xu Tianchen perd le premier 21-14. Derrière, il se balade 21-10, 21-6. J'aurais aimé qu'on ait un vrai troisième set, mais je pense que le japonais avait plus rien dans les jambes. On peut peut-être passer à son parcours à lui, ouais. Benoît, parce que moi aussi, il m'a encore impressionné. C'est toujours dur de, parce que même s'il a pas gagné la semaine dernière à Singapour, c'est quand même un tournoi qu'il a bien mis en lumière. Et là, il bat des vrais joueurs cette semaine, hein. Igor Coelho, Mon Yunat, l'Indien, Pedpradab, le Thaïlandais. C'est pas mal, hein.
Ouais, et celui que t'as pas cité, moi, c'est celui qui m'a le plus marqué, Lin Shui. C'est pas un joueur qu'on connaît beaucoup, il a beaucoup souffert de la période Covid, pas de match depuis 2019, avant janvier 2022, c'est vous dire à quel point ça a été compliqué. Mais c'est un vrai joueur, Lin Shui, sincèrement, pour moi, c'est un top 40 mondial, vraiment facile. J'ai été impressionné par sa qualité de jeu cette semaine. Et Naraoka a vraiment été solide dans cette demi, parce qu'il y avait de quoi la perdre. Et ouais, vraiment, il a joué des vrais joueurs. Man Yunat, oui, pas tête de série, mais gros joueur qui fait des grosses perfs. Il a battu Kidambi récemment. Naraoka, ouais, clairement. Moi, je sais pas, tu vas me dire ce que t'en penses, mais il me fait penser un peu à Christo. C'est un joueur vraiment fort, très fort, capable de battre des gros joueurs. Mais le problème, c'est ce jeu trop énergivore. Et encore une fois, ben, difficile de dire que le score de la finale me fait mentir, quoi.
Ouais, c'est vrai. Pour l'aspect manque d'énergie, ouais, je suis d'accord, parce que dans le style de jeu, plus technique que Christo, et sans doute moins rapide. Mais ouais, je suis d'accord que après, on parle de, bon, Christo est plus jeune, mais on parle de, il est un an plus jeune. On parle de deux mecs dont le jeu va encore évoluer, tu vois. Donc c'est pas dit que ils aient encore ce problème dans la suite de leur carrière, mais en tout cas, c'est vrai que Naraoka, tu te dis que bah, il a toutes les armes pour réussir, parce que c'est vrai que je le trouve plus sympa à voir jouer, en tout cas, que des mecs comme, je vais peut-être être un peu sévère, mais Tsuneyama ou alors d'autres japonais, tu vois.
Bah écoute, j'allais justement t'amener un peu sur eux. Est-ce que pour toi, Naraoka, c'est le numéro 2 japonais là dans les 3-4 ans à venir? Pour moi, la réponse est oui.
Bah moi, je suis pas sûr, parce que... Parce que pour l'instant, il est vraiment en phase ascendante. Ouais. Et il va falloir se stabiliser. Et on peut dire ce qu'on veut, mais bah les Japonais en simple homme, ils ont ce truc de rarement décevoir. Et même si c'est pas, je pense notamment à Tsuneyama, c'est pas le joueur le plus technique du monde. Je trouve qu'il a il est forcément plus vieux, donc il est plus armé, on va dire, pour le circuit senior. Donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner Naraoka. En tout cas, je le souhaite, parce que c'est pas mal. Ils ont Koki Watanabe, qui est assez jeune aussi, ouais. côté japonais. Ils ont une petite relève qu'on a hâte de voir sur la durée. Mais en tout cas, deux finales en deux semaines, avec un style de jeu, tu l'as dit, qui demande beaucoup de physique, ça reste impressionnant.
Oui, et puis c'est toi qui l'avais souligné, il me semble, la semaine dernière à Singapour, mais... Naraoka et Watanabe, on est quand même sur deux styles de jeu assez détonnants pour le bat japonais. Et t'as parlé de Tsuneyama, on pourrait parler aussi de Nishimoto. On a deux jeunes joueurs qui vraiment sont sur un style de jeu totalement différent de ce qu'on a vu sur la dernière génération japonaise. Donc j'ai vraiment hâte de voir.
Voilà, Koki Watanabe, il était là aussi, mais il a perdu contre Sung Juven, le Malaisien, au deuxième tour. Benoît, il y avait un Français dans ce tableau, et on va en parler, malheureusement, il a pas passé le premier tour. C'était Lucas Clairbout qui avait fait le voyage et qui avait pas un tirage facile. Il aurait pu, je pense, beaucoup mieux s'en sortir sur ce genre de tableau. Malheureusement, il a pris la tête de série 7. Le Thaïlandais Pedpradab, qui a perdu contre le finaliste au troisième tour. Défaite de Lucas Clairbout, 21-12, 9-21, 21-11. Un match assez haché, Benoît, mais où malheureusement, on n'a pas vraiment eu l'impression que le Français pouvait le gagner. Et c'est dommage, parce qu'il aurait pu passer un tour, voire deux, sur ce tableau, je pense.
Ouais, voire deux, avec un tirage un peu plus clément. Il y avait des têtes de série, clairement, que tu avais plus envie de prendre que Betrabad.
Quand tu vois que Paroupali a passé deux tours, bon.
Ouais, ou même Zilberman, hein, il a pas gagné, mais il était tête de série, tu vois. Enfin, tu te dis que. Il paye aussi ses derniers résultats, Lucas Clerboux, parce que pour moi, il est meilleur que Misha Zilberman.
Ouais, j'ai tendance à le penser aussi, ouais. Voilà, la tête de série 2, c'était Wang Tuwei, mais qui a perdu contre son jeune compatriote Li Chunyi, dont tu parlais tout à l'heure. Ça, c'était un peu le résultat le plus surprenant, mais j'avoue que j'avais du mal à voir Narwaka refaire finale et avoir les jambes pour aller jusque-là, mais en tout cas, c'était un tableau sympa en simple homme. Est-ce que tu veux en rajouter quelque chose, Benoît, sur ce tableau, justement?
On en a bien parlé, mais c'est vrai que c'était le tableau le plus intéressant, à mon sens. Et notamment, on a vu Sung Juven, c'est avec Ngue Tse-Yong et Cheam. Je trouve qu'ils incarnent vraiment cette nouvelle génération malaisienne. Évidemment, les DJA, il n'y a pas question. Mais je trouve qu'il y a trois joueurs là qui sont en train de progresser et de se tirer vers le haut. Espérons que enfin la fédération arrive à faire quelque chose et à pas perdre tous ces joueurs, mais c'est vraiment trois joueurs pas dégueux à voir évoluer sur le circuit. Hein.
Voilà, est-ce que tu sais si Sung Juven il est encore à la Fédé, puisque s'il joue en mixte avec Go Liu Ying, j'aurais tendance à penser que non. Et mais j'avoue que j'ai pas l'info.
Ben ouais, c'est la réponse, c'est que non. Le seul c'est Ngue Tse-Yong de mémoire. Cheam non plus, puisque Cheam vous l'avez peut-être vu passer, mais Cheam il sera en France l'année prochaine en top 12. Et le seul, ouais, c'est Ngue Tse-Yong qui sera au jeu du Commonwealth. D'ailleurs, ben, la sélection explique aussi que les deux autres ne sont pas dans l'équipe nationale.
C'est quand même assez terrible que des mecs aussi jeunes soient déjà plus dans le giron national. En plus, du coup, ils font n'importe quoi. Genre, ils jouent en mix, du coup, alors que c'est un joueur de simple homme.
Et ils gagnent pas un match.
Et ils gagnent pas un match, non. Donc, c'est assez étrange, ouais. Puisque, les Malaisiens, eux, pour le coup, ils ne sont pas, on va dire, tout seuls, puisqu'ils ont fait une genre de fédé alternative, on va dire, tous ceux qui ont quitté la fédé nationale, ils sont ensemble dans une académie privée qui sont créées même, mais c'est vrai que pour l'instant, les résultats sont pas ouf. D'ailleurs, ça me rappelle que j'ai oublié, je voulais envoyer une balle perdue à Chiasso en double homme quand on a vu que d'autres Malaisiens avaient gagné, mais j'ai oublié.
Quand ils sont pas là, tu y vas, quoi.
Bah voilà, c'est vrai que pour le coup, les Malaisiens en double homme, bah, ça peut gagner, la preuve. mais c'est pas grave, j'aurai, je pense, beaucoup d'autres occasions. Oui. Donc voilà, Xu Tianchen qui gagne son quatrième titre, je conclue là-dessus, après 2016, 2017 et 2019. J'ai vu que, Benoît, tu as dû le voir aussi, que Guy Clark avait donné une petite stat, que c'était que Xu Tianchen avait égalé Li Chongwei, Lin Dan et Li Yunil avec 9 titres de simple homme, que ce soit en Super 300 ou en Grand Prix Gold, qui était l'équivalent avant. Et ça m'a un peu frappé parce que je me dis, autant Lin Dan, Li Chongwei et dans une moindre mesure Li Yunil, c'est des mecs qui ont gagné des tournois au-dessus, autant maintenant Xu Tianchen, on a l'impression qu'il a plus trop les armes pour gagner mieux que ça, quoi.
Ouais, mais est-ce que c'est pas aussi ce qu'on disait, hormis cette saison où c'est plus compliqué, mais tu sais, il est toujours bien placé dans les gros tournois, donc je parle mondiaux, Super 1000, Super 750, et difficile d'aller au bout, mais par contre, il perd rarement contre des joueurs moins bons, ce qui explique aussi que Xu Tianchen gagne des Super 500, gagne des Super 300, hormis en 2022.
Je suis d'accord, c'est vrai que c'est un mec qui perd pas quand il doit pas perdre, mais ouais, qui a du mal à, on va dire, renverser la table et battre des joueurs mieux classés que lui. Donc bon, on verra si sa victoire lui fait du bien éventuellement pour les mondiaux. Benoît, c'est la fin de ce passage sur le Taiwan Open. Là, bon, il va avoir une pause, on va dire, jusqu'aux mondiaux. Entre les deux, il y aura juste les Jeux du Commonwealth, dont on ne doit sûrement pas parler, ou alors au détour d'un épisode, mais en tout cas, on ne fera pas d'épisode centré là-dessus. Mais avant de conclure, on voulait parler d'un nouveau truc, Benoît, pour nous, en tout cas, puisqu'on a une petite nouveauté. Est-ce que tu veux, tu en as parlé sur Insta, enfin, tu l'as montré, mais est-ce que tu veux nous en parler un peu en audio?
Écoute, oui, on a un site internet. Alors, on a un site internet. C'est pas nous qui l'avons créé. Encore une fois, je pense que Caroline mérite les centaines de remerciements qu'on pourra lui adresser parce que malheureusement, c'est du temps qu'on n'avait pas, Ewan et moi. Donc, elle nous a largement aidé dans cette tâche. Elle est arrivée avec un site internet. Elle nous a dit, les gars, voilà, je vous propose de vous faire un site. Qu'est-ce que vous en pensez? Comment dire non? Voilà, je...
Oui, ben, on doit la remercier. Voilà. Effectivement, vous l'avez entendu dans l'épisode sur l'Indonesia Masters, je crois.
Oui.
Donc, bah, effectivement, un grand merci à elle. Puisque, bah, effectivement, du coup, maintenant, on a un site. Alors, qu'est-ce qu'on peut retrouver sur ce site, Benoît?
Alors, sur ce site, vous retrouverez nos derniers épisodes, nos réseaux sociaux. Qu'est-ce que j'oublie? Nos invités.
Les invités qu'on a reçus, si vous voulez avoir accès aux interviews plus facilement.
Un formulaire de contact, si vous voulez nous envoyer des messages parce que vous voulez pas le faire sur Insta ou ailleurs. Si vous voulez, je sais pas, si vous êtes Yonex et que vous voulez sponsoriser le podcast 21 Shuttle ou toute autre marque, vous pouvez le faire aussi.
voilà, donc on voulait en parler. Je vous mettrai le lien du site dans la description de l'épisode. Et cette fois, je le ferai vraiment parce qu'à chaque fois que je mets des trucs dans la description, j'oublie de le faire, mais là, je vais vraiment le faire. Donc voilà, encore une fois, merci beaucoup à Caroline. Et sinon, bah, merci de vos retours sur l'épisode filmé qu'on a fait la semaine dernière pour Singapour. On en a lu pas mal et on les a, on va dire, assimilés. Donc on en refera sûrement, hein. On pense, pour être tout à fait honnête, on pense garder ça pour les gros épisodes type interview ou ce genre de choses. Et dernière chose que je devais dire, oui, pas d'épisode lundi prochain, donc on se prend une petite semaine de pause et donc pas d'épisode de lundi 1er août, mais on revient dès le 8 et en fait on va pas se mentir, tout le mois d'août on va passer en mode mondiaux puisque c'est ce qui arrive à la fin de l'été. Et on a plusieurs choses pour vous donner envie de les suivre et pour vous donner les clés. On vous donnera tout ce qu'il faut suivre pendant ces mondiaux et même un peu plus, vous allez voir ça le 8 août. Merci Benoît d'avoir fait cet épisode avec moi.
Bah merci à toi Ewan et merci à vous pour votre écoute.
Donc on se retrouve le 8 août pour un épisode qui aura, je spoil pas, mais qui aura un rapport avec les mondiaux. D'ici là, portez-vous bien, passez un bel été, que vous soyez en vacances ou encore au travail. À la prochaine.
绽放我们激情的节奏，把那束缚抛开的时候，共同感受这片天空带给我们的自由。挥动你我坚强的双手，努力奔向成功的尽头。我们的梦握在手中，绝不等候。经历这平凡的